champion, l'Olympique de Marseille remporte la Coupe de la Ligue en battant en finale les Girondins de Bordeaux 3-1. Les trois buffossiens ont été inscrits par Souleymane Diawara, Mathieu Valbuena et Mathieu Chalmé contre son camp. Lamine Sané a réduit le score pour les Aquitains.
News Info. 24h sur 24. Oz Radio Yerushalayim sur votre portable www.ozradio.mobi.
Il est 11h02 à Jérusalem ce matin et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans mon émission Ronia Krish. Ronia Krish, bonjour. Alors on ne vous présente plus parce que tout le monde vous connaît, mais je souhaite quand même dire à nos auditeurs un petit mot qui me permet de vous présenter d'une manière un petit peu originale. Je vous cite, soigner et enseigner m'ont permis de retrouver mon peuple, ma terre et ma Torah, ce pour qui et pourquoi j'en suis devenu le serviteur. Ronia Krish est professeure d'études juives et responsable d'enseignement au Mahontal et à la Midrashet Mahamakim. Vous êtes un grand militant, un militant sioniste, hein, c'est comme ça qu'on pourrait vous qualifier, avec une voix qui ne laisse pas indifférente, c'est votre voix qui marque votre personnalité un petit peu partout. Alors ce matin, on avait très envie, avec toute l'équipe de Oz Radio, de parler de Pessah, bien évidemment, puisque nous sommes à la veille de cette fête extraordinaire qui est la fête de la liberté, et on avait envie d'avoir quelqu'un qui nous, avec une voix radio, qui nous parle de Pessah d'une manière un petit peu originale. On n'aura pas l'habitude d'entendre ce langage dans les cours de Torah en France et ailleurs. Et donc, on voulait offrir à nos auditeurs un petit peu cette Torah d'Eretz Israël qui manque tellement aux auditeurs de Chutz La'aretz. Roni, Pessah pour vous cette année, c'est quoi ?
Mais d'abord, permettez-moi de dire bonjour à l'ensemble de nos auditeurs et à vous-même, Emmanuel.
Merci.
Et si vous voulez entendre ou savoir de quelle obédience je suis, à laquelle j'appartiens, alors...
J'aime pas les étiquettes, moi, Ronnie.
Alors,
Pour moi, vous êtes un hébreu de la terre d'Israël.
Voilà, Bidiouk, exactement. Et le titre que j'ai choisi à ce retour après 4 ans de maladie... a été les passions d'un hébreu.
Alors justement, vos cours et vos conférences sont présentés un petit peu comme un spectacle avec une collection, on va dire. Ça s'appelle les passions d'un hébreu. Et vous faites une tournée dans tout le pays et même en dehors d'Israël pour enseigner, pour transmettre cet amour que vous avez de la terre d'Israël.
Oui, je suis intimement attaché, intimement lié à cette découverte, bien sûr, de cette trilogie du peuple de la terre et de la Torah d'Israël. Et je pense ô combien à ceux qui en ont la possibilité, et en tout cas le caractère et le pouvoir, de devoir enseigner cela, transmettre cela, afin de pouvoir entériner dans l'intériorité de tout un chacun, en tout cas chez ces Juifs que nous étions, la possibilité, à travers le vecteur d'Israël, de retrouver le nombre entier de l'hébreu qui se cache dans le Juif que nous sommes.
C'est à la recherche de l'hébreu perdu, alors.
Oui, c'est bien sûr, il y avait celui qui avait écrit, pas besoin de citer de nom, à la recherche du temps perdu, mais je crois que le temps est l'essentiel même de l'identité, car l'espace, bien entendu, nous manquait non seulement dans l'Égypte antique, dans laquelle nous nous étions retrouvés, insérés dans un système hégémonique, concentrationnaire, comme disait mon maître André Néer, et à l'intériorité de ces nouveaux camps de concentration qui ouvrent en tout cas la porte à tout l'antisémitisme quel qu'il soit, nous n'avions pas perdu un tant soit peu le rêve essentiel, le rêve de cette terre tant adulée, tant choyée, tant espérée. Et il fallut bien entendu que cela se réalise, nous n'avions jamais perdu l'espoir. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que la majorité, bien entendu, ne sortiront pas parce qu'ils se refusent à cette sortie, ils se refusent à entériner la possibilité de pouvoir retrouver cet espace et ce temps, et une minorité sortira, les héros d'Israël, ou nous les appellerons ceux qui décidèrent d'être passionnés par l'histoire d'un hébreu.
Alors aujourd'hui, la majorité du peuple juif se retrouve sur la terre d'Israël. On connaît les chiffres.
C'est extraordinaire.
C'est fabuleux. C'est quand même un moment dans l'histoire du peuple unique.
Oui, parce que je peux vous dire que nous avons tellement espéré, tellement prié. Vous vous rappelez, sous chaque roupa, c'est un verre brisé. Dans chaque maison du judaïsme espagnol, c'est un sac de cendres. Dans chaque maison d'Europe centrale, c'est un mur mal fini. Parce que c'est dans cette non-finitude-là que nous devions retrouver ou puiser les pouvoirs, en tout cas d'espérer et non pas de désespérer, même si cet espoir était impatient, comme disait Manès Barber. Mais nous n'avons jamais, en aucun cas, désespéré de voir, d'entrevoir, de percevoir et de réaliser ce que nous réalisons aujourd'hui. Le bus qui m'amenait chez vous m'a permis de regarder dans les rues cette veille de Pessah.
Alors ça, c'est extraordinaire. Il faut quand même raconter à nos auditeurs qui ne vivent pas en Israël. Un Pessah à Jérusalem, c'est comme nulle part ailleurs. On voit dans les rues, bon, on ne parle pas des magasins qui regorgent de victuailles et de choses à acheter. Et les consommateurs ne s'en privent pas. D'ailleurs, on a l'impression que c'est une véritable sortie d'Égypte. Et puis, c'est préparatif. On sent la fête. On voit sur les balcons les gens qui secouent les tapis, les matelas, les oreillers, etc. On peut aller tremper sa vaisselle, faire la gala et faire le liboum de sa vaisselle de Pessah dans les rues même de la ville, chose qu'on n'a jamais vécue en Galoute. Qu'on ne connaît même pas. Dites-moi si je me trompe.
Hein. Non, pas du tout. Mais je crois
aller
que c'est acheter
pas ses matzottes au supermarché du coin, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Ouais, on a essayé, mon fils a essayé ce matin de trouver un croissant et il ne put en trouver, tous les magasins sont déjà cachés à l'épaisseur.
C'est une fête traditionnelle, mais que tout le peuple suit dans son ensemble, religieux et non religieux, parce qu'elle a un sens, elle a un sens profond.
Elle a un sens plus que profond, elle a un sens qui touche à l'intrinsèque même de l'être juif qui aspire justement à cet hébreu dont nous parlions. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que veut dire Pessah, que nous dédions en tout cas ces minutes que nous passons ensemble et avec nos auditeurs à la mémoire des deux soldats qui sont tombés vendredi après-midi devant la bande de Gaza. L'un d'entre eux, j'ai eu la chance de le connaître. La famille Peretz, c'est le deuxième enfant qui tombe. Le premier frère est tombé il y a 12 ans. Le deuxième est tombé aujourd'hui. Et la maman a été interviewée, bien entendu, sur toutes les ondes. Et elle a dit, mes enfants sont de ces soldats qui n'aspirent qu'à devenir officiers et à servir leur pays dans les commandos Golani. Et combien l'Éternel, Dieu d'Israël, aime les enfants de Golani, et combien l'Éternel, Dieu d'Israël, aime les enfants de la famille Peretz.
Mais c'est tragique.
Oui, mais ça veut dire quelque chose d'essentiel, car elle déclare aux journalistes et à ceux qui l'entendent sur l'ensemble des ondes internationales ce que veut dire ce retour et cette liberté-là. C'est ce que nous proposions aux enfants d'Israël. Lorsque Moshe revient de sa rencontre avec le buisson ardent où l'Éternel le pousse à devenir l'envoyé, le délégué, à savoir le berger de ce peuple qu'il doit conduire. Et il lui dit le code essentiel pour la libération. Vous savez qu'à chaque fois qu'il doit y avoir un débarquement pour libérer, il y a une musique et il y a un poème. Nous connaissons celui de Verlaine, la cinquième de Beethoven. Mais Moshe, lorsqu'il rencontre Aaron, lui dit « Pakod, Ifkod, Elohim et Trem ». Ça, c'est le message. Et ce message va être transmis aux anciens. Et les anciens doivent accompagner Moshe et Aaron au palais de Thèbes pour rencontrer Pharaon et lui dire « Enfin, let my people go, laisse mon peuple sortir ». Le seul problème, nous dit Rashi, Rabbi Shimon Yitzraki, qui vivait au XIe siècle dans son terroir de Champagne, il écrit « Mais les sages se défilèrent de cette rencontre avec Pharaon. Et lorsque Moshe se présente devant Pharaon et lui dit « Au nom du peuple d'Israël, nous te demandons de nous laisser sortir », Pharaon a un regard interloqué, bien entendu, parce qu'au nom d'Israël, Moshe se retourne et Aaron aussi, et s'aperçoivent que derrière eux, il n'y a plus personne. Eh bien, l'histoire de cette sortie d'Égypte est justement au travers ces gens qui accepteront, envers et contre tout. Nous connaissions l'histoire parce que nous avons vécu il y a 60 ans de ces périodes très héroïques, et même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé Eliras Peretz, Hachem Inkom Damo, qui est enterré maintenant, pendant que nous parlons. L'enterrement a lieu au Mont Herzl en ce moment. Et je veux que tous mes propos soient dédiés à sa mémoire et la mémoire de son ami. Car ces gens-là, ce sont des gens qui ont accepté, selon l'ordonnance de Moshe, le 10 du mois de Nissan, d'aller dans les rangs des Égyptiens, et d'aller prélever l'animal le plus idolâtré par la religion égyptienne, si on peut l'appeler ainsi à cette époque, ce polythéisme-là, l'agneau. L'agneau, c'est l'agneau qu'ils ont été chercher. Et à la limite, on pourrait presque en rire, parce que ne trouvant pas quel agneau était question, les Égyptiens leur demandaient « Mais quel agneau voulez-vous » Alors les Hébreux leur dirent « Pascal », bien entendu. C'était celui-ci qu'ils cherchaient. Alors ils ont pris cet agneau-là, et le 10 du mois de Nissan l'ont ramené à la maison. Vous savez ce que ça veut dire qu'en pleine hégémonie égyptienne, au milieu de ces carcans de l'histoire exilique, aller prendre l'agneau qui est tellement idolâtré par le peuple égyptien, essayer de toucher une vache en Inde aujourd'hui, à Pondichéry par exemple, si vous n'avez jamais mis les pieds. Eh bien, il y a là un acte de résistance. Et cet acte de résistance, le 14 au soir, 4 jours plus tard, c'est pendant 4 journées, ils préservent cet agneau attaché au sommier de leur lit, si lit il y avait, ou plutôt lit de paille. Mais pendant 4 jours, on entend bêler l'agneau et les Égyptiens ne réagissent pas. Vous vous rendez compte le courage qu'il faut ? Oui, vous avez raison, tout le monde n'ira pas chercher l'agneau. Et le 14 au soir, il faudra dégorger, prendre le sang, peindre les linteaux des portes. Et le soir venu, en faire tzli esh, il est écrit. C'est-à-dire en faire des grillades. Comme quoi, vous savez que les grillades, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, rappelez-vous que lorsque les pilotes des lignes aériennes disent que lorsqu'ils survolent le 5 du mois de Iyar, l'État d'Israël, et qu'il y a comme un réar niroir les senteurs des fumées des grillades israéliennes, c'est parce que peut-être que ce tzli esh, ce ala esh, cette grillade, signifie que nous sommes aux portes ou sur les pas de la liberté, de cette nouvelle souveraineté et indépendance à laquelle nous aspirons envers et contre tout. Et cette liberté-là commence dans le fait qu'ils ont été capables d'agir et de réagir à l'injonction de Pakod Ifkod Elokim Etrem. Et lorsque Moshe et Aaron leur disent « Nous sortons », seulement 20% sortiront, 80%. Comment dit Rashi ?« Rechaim chez Loratzulatzet ». Il dit « Ceux qui ne veulent pas sortir », dans le langage de Rashi. Et il n'était pas embaumé par les senteurs du champagne lorsqu'il écrivait cela. « Ceux qui ne veulent pas sortir sont des Rechaim ». Rechaim, ça ne veut pas dire celui qui est mauvais, mais celui qui est incapable de faire la différence ontologique entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, qui ne sait pas quel est le véritable chemin vers lequel nous devons aller. Bien sûr que le soir de Pessah, nous avons nombre de halachot. Mais halachot, rappelez-vous, qu'elles sont importantes, mais elles sont aussi significatives dans le sens où la racine de halacha, c'est la lechet, c'est marcher, c'est être en marche, c'est ne pas, surtout pas, être un homme pieux, car les pieux, comme disait Manitou, sont inamovibles. Et les gens qui sont redevable de cette halakha et du sens de la lechet, du sens de la mise en marge de cette participation à l'histoire, sont ici. Et vous l'avez signalé, une majorité aujourd'hui. La majorité se trouve ici, cette majorité qui accepte de retrouver qu'elle a une langue particulière, une histoire particulière, une terre particulière et une Torah particulière. Et des garçons comme Eliraz, Peretz, Hachem Inkom Damo, ce sont ces garçons emplis de Torah, officiers de l'armée israélienne, ils sont pour moi mariés, pères de 4 enfants, vivant sur les collines de Élie, de cette Samarie antique qui rappelle tellement de l'histoire, histoire, historia, the Esther Yudke, la face cachée de l'éternel, qui tire les ficelles de l'histoire humaine et qu'il vient affirmer vendredi après-midi qu'il est prêt à monter au combat et à se sacrifier pour que vous et moi nous puissions tranquillement discuter ce matin.
Pas seulement vous et moi, tous les Juifs du monde entier.
Oui, mais c'est plus ici l'ensemble des enfants d'Israël dont il est question. Je ne crois pas que Eliraz est tombé parce que les Juifs du monde entier attendaient que Eliraz se batte. C'est d'abord et avant tout parce qu'il y a, dans cette sortie d'Égypte, comme dit le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib, au XVIe siècle, dans son livre Gevurat Hashem, il n'y a pas de sortie si ce n'est pour entrer. Or, je suis sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Ma finalité d'être n'est pas dans le désert du Sinaï, ni sur le mont Sinaï. Ma finalité d'être est de sortir d'Égypte pour rentrer. Si je sors du studio tout à l'heure, je rentre dans la rue. Mais si je sors de la rue, je rentrerai chez moi. Il n'y a pas de sortie sans entrée probable. Et peu de gens ont été capables de monter à l'assaut de l'histoire pour devenir l'héros de l'histoire. Mais vous connaissez l'histoire comme moi, ils ont tous été des résistants une fois que la guerre fut finie. Mais jamais pendant le temps où il fallait sauver des Juifs, où il fallait sauver ne serait-ce que l'image divine qui devait se révéler sur le visage humain qui était le mien. Et la plupart du temps, les hommes seront capables de faire parler la bête qui est en eux, plutôt que la belle qui n'attend qu'un moment de venir se réjouir à la face des palettes de la couleur, des couleurs de la palette de cet éternel qui a dessiné ce monde de la manière la plus merveilleuse qui soit.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce rêve espéré pendant tant d'années est enfin réalisé ? Et si ce rêve est réalisé, quelle est l'étape suivante ?
Non, il n'est pas encore réalisé parce que j'ai appelé ma tournée du mois de mars le printemps de la liberté. Le printemps, ce n'est pas l'été, mais ce n'est plus l'hiver. De la même manière, lorsque vous parlez de Ayelet HaShachar, de l'aurore, c'est la fin du jour, mais le début, c'est la fin de la nuit, mais le début du jour. Or, c'est au moment où la nuit se termine, nous dit le Talmud, que la nuit, l'obscurité est le plus obscur possible, car il n'y a ni lune, ni étoile. Et pourtant, dans cette obscurité, la plus obscure qu'il soit, c'est là que pointent les premiers frémissements et vrombissements de cette journée à venir. Alors, c'est là, justement, qu'il nous est demandé. Comment disons-nous dans la Tfila de Harvit, les Hagid Baboker Chazdecha, dire tes louanges lorsqu'il fait jour, interroger les gens quand tout va bien. Comment ça va ? Grâce à Dieu, tout va bien. Mais Emunate Rabalelot, c'est la fin de la phrase. C'est-à-dire que la Emuna, cette confiance, je ne traduis pas cela par la foi. Emuna, c'est la confiance que j'ai. Confiance dans l'éternel Dieu de l'histoire. qui m'a donné entre mes mains la possibilité d'être le porteur du projet divin, du projet éthique et moral de cette humanité, pas seulement pour Israël. Emunatera balelot, c'est au moment où il y a l'obscurité la plus totale, dans
alors
ces moments de douleur.
Printemps
que nous, le printemps, parce que le printemps, c'est quelque chose qui vient nous révéler déjà aux prémices du printemps, à Tu Bishvat. Il n'y a pas de fête des fruits. Ça aussi, c'est une ineptie que je ne sais pas qui a inventée. On enseigne aux gens absolument n'importe quoi la plupart du temps. Mais il faut bien régaler les masses avec du pain et des jeux. Alors, le Tu Bishvat, ce n'est pas la fête des fruits. C'est le nouvel an des arbres. Mais même lorsque nous parlons du nouvel an des arbres, nous parlons du nouvel an, c'est-à-dire de la naissance. Le nouvel an, c'est la naissance. C'est même, ce n'est pas l'arbre en tant qu'arbre. Il deviendra arbre que parce qu'il y a une naissance. C'est-à-dire au moment où la sève est capable de se lever, de s'élever, de s'écouler dans les branches, dans le tronc, les branches et les branchioles, afin de pouvoir entériner la naissance de cette feuille, de cette fleur, du bourgeon et du fruit. Vous comprenez que le processus est évolutif et que celui qui veut transcender les paliers de son histoire personnelle comme de l'histoire générale, eh bien, est capable de s'embourber dans les vicissitudes et les velléités de cette histoire.
Donc là, c'est la naissance du peuple. C'est le printemps, la naissance du peuple.
Oui, c'est la naissance du peuple. Il y a une, je ne veux même pas dire renaissance, car à l'époque, à la fin du 19e siècle, tout le 19e siècle plutôt, il y a cette, formule qui parle du Risorgimento, c'est-à-dire une sorte de renaissance nationale des peuples. Il n'y a pas de renaissance. Nous ne sommes pas morts.
C'est une continuité. Eux sont morts.
Bien. Non, il est question. On a voulu faire de notre langue une langue morte, mais je suis absolument désolé. Au vu et sus des milliers de responsums que nous possédons, la langue hébraïque a toujours été vivante. Et l'histoire était vivante. D'ailleurs, rappelez-vous, puisque nous parlons de l'Égypte, le premier à reconnaître que nous sommes un peuple, alors que nous ne savions pas encore. C'est Pharaon. Du haut de son balcon de ce palais de Thèbes, il dit à ses conseillers, « Iné Am, Béné Israël, voici le peuple des enfants d'Israël. » Alors ses conseillers lui disent, « Mais enfin, Pharaon, Ramsès ou tout en carton, on ne se rappelle pas exactement qui était-il. » Il lui demande, « Mais enfin, en quoi voyez-vous que c'est un peuple ?» Il dit, « Vous rendez compte ?» Et le soir, dans leur chaumière, ils se racontent leurs histoires à eux, dans leur chaumière. Et puis, vous savez, ils parlent une langue tout à fait étrange, ils parlent une langue différente. Et puis, ils ont aussi une culture totalement différentielle. Mais ce qui est plus grave, Pharaon, dit ses conseillers, ils ont un rêve. We have a dream. Nous avons un rêve. Et quel est-il ? Mais c'est qu'un jour un sauveur viendra. Soyez à l'écoute, parce qu'il y aura sûrement un message. Lui aussi le savait. Alors tuez, entérinez la solution finale des mâles. Cela amènera le père de ce peuple, avant Moshe, Amram il s'appelle. Le nom et l'essence de l'être. Il s'appelle Amram, quel est le nom que vous portez, c'est important. Il s'appelle celui qui est capable d'élever le peuple. Il va désespérer, il va déprimer, il va divorcer de sa femme Yochevet. C'est une enfant, une jeune fille, qui va venir sa propre fille le remettre en question et lui dire, « Long père, comment désespérez-vous » Il lui dit, « Mais enfin, ne vois-tu pas la situation ?» Elle lui dit, « Oui, mais je ne suis pas celle de l'espoir impatient. Je suis celle qui est capable de comprendre que l'histoire est évolutive. Nous souffrons aujourd'hui, mais pour mieux naître, pour mieux renaître. » Et alors il réépouse Yochevet et Moshéné, et ce n'est que dans cette nuit, Beretzi Alaïla, au milieu de la nuit, Nadedash Natanesira, que le sommeil de la princesse n'y trouva point de repos, et elle se leva. Elles sont deux femmes à se lever au milieu de la nuit. Les Égyptiens dorment parce qu'ils sont repus du travail hégémonique qui est le leur. Et les Hébreux dorment, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils veulent oublier la tristesse d'être l'objet de leur histoire. Mais durant cette nuit-là, au milieu de la nuit, ce sont deux femmes. C'est la raison pour laquelle la Gemara dira « Besrut nashim tzatkaniyot yatsanu mimitzrayim ». C'est grâce à ces femmes, pas sages, tzatkaniyot, tzedek, qui avaient la justice en elles, qui étaient capables de comprendre quel était le véritable poids et mesure de la réalité géopolitique, de l'histoire divine. Et elles rencontrent Bithya et à elles deux, elles vont mettre toute leur foi, toute leur confiance, toute leur croyance, où cet enfant ne grandirait pas au milieu des camps de concentration de Memphis et de Luxor, mais dans les couloirs du pouvoir pharaonique, où il apprendrait ce que veut dire noblesse, dignité, courage et bravoure.
Alors qu'en est-il de ce rêve aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il se réalise, regardez.
Ben oui.
Il se réalise, regardez.
Pour moi, le rêve est réalisé. On est sur la terre d'Israël.
Oui, bien sûr,
il est réalisé. On est souverain sur notre terre.
Ken, mais vous comprenez que nous sommes rien qu'avec les informations, ne serait-ce qu'avec les informations qui furent les nôtres il y a quelques instants, que ces vicissitudes et ces velléités dont je parlais il y a un instant sont toujours omniprésentes, si ce n'est omnipotentes.
Oui, dans la tête des autres.
Pas seulement, regardez, on revendique Jérusalem, on revendique le fait que vous ne puissiez construire, grandir,
okay,
vous élaborer.
On y est.
Absolument.
Mais il y a une énorme différence.
Ça, bien sûr, mais ça veut dire que nous sommes en processus. Nous avons une finalité. Nous pensons que le Sauveur, que ce soit un homme ou l'idée, eh bien, doit rédempter non seulement Israël, mais que la rédemption d'Israël, ou la lumière qui émanera d'Israël, n'est pas que pour Israël. Cette émanation de lumière, cette révélation de ce qui est juste, bon et beau, elle est aussi tout autant pour l'ensemble de l'humanité.
C'est que nous sommes les vecteurs de cette tridimension
du bon, du bien et du beau. Mais il faut déjà posséder en nous cette dimension-là pour pouvoir l'offrir. Comment pouvez-vous dire « je t'aime » à quelqu'un si vous ne possédez pas un tant soit peu d'amour dans
Mais notre... c'est intrinsèque au peuple juif, c'est cette dimension.
Non, ça veut dire...
C'est dans l'essence même
Oui,
de,
mais
du
c'est
juif.
En potentiel. Ce sont des dimensions potentielles. Quand le prof dit à son élève « peut mieux faire », c'est qu'il a vu en lui la potentialité de mieux faire. Mais ce que nous demandons à nos enfants, c'est de réaliser ce potentiel. Que m'importe que vous soyez bonne, juste et belle, si dans la réalité quotidienne, cette chose n'est pas réalisée au concret.
Mais vous ne pensez pas que le fait que les nations, justement, nous reprochent d'être injustes, racistes et tout le reste, ça prouve bien qu'ils sentent en nous ce potentiel et qu'ils le voient sortir au grand jour, sinon ils ne nous attaqueraient pas sur ces points-là.
J'aime votre réflexion. En ce moment, dans tous les cours, je dis exactement un peu de ce que vous dites, parce que je pose la question. Êtes-vous certain que Madame Hillary et Monsieur Barack, de son nom Obama, parce qu'on en a un autre Barack en Israël,
donc je parle
du Barack Obama, lorsqu'ils viennent vous demander de cesser toute construction, c'est intéressant de cesser toute construction.
Ça veut dire qu'ils réalisent que nous sommes un peuple constructeur.
Naron, mais pas seulement cela, Emmanuel. Je dirais, je rajouterais que je ne suis pas certain que dans la vindicative de leurs propos de cesser toute construction, il y a véritablement le désir ou l'aspiration d'entendre le gouvernement israélien répondre positivement à leur appel. Mais peut-être qu'au travers leur demande, ils veulent entendre la voix de cet Hébreu qui se cache dans les Juifs que nous sommes encore et toujours. Parce que être un Hébreu, c'est vouloir être capable de faire valoir cette dimension de dignité, de noblesse, de courage, de bravoure.
Donc on a bien répondu alors.
Non, parce que nous avons cessé de construire. Nous n'avons pas bien répondu. La réponse que nous aurions dû donner, et encore plus pour Yerushalayim, c'est bien entendu que nous continuons à construire. Je ne sais pas si vous avez vu les journaux, mais dans le monde, je parle. Il y avait la photo de la Churva, la Beit HaKnesset, qu'on a inaugurée la semaine dernière. Et juste à côté, il y avait la photo de jeunes Palestiniens avec des frondes pour jeter des pierres. J'ai dit, la photo était quand même significative. Vous avez des gens qui inauguraient ce qui avait été construit, et les autres avec leurs frondes qui avaient le désir de casser et de briser. Je veux dire, c'était...
La dialectique, elle est là, entre
absolument.
Un peuple constructeur et un peuple
destructeur. Mais si on nous accule continuellement à toutes sortes de réflexions, d'injonctions, et d'état vindicatif, c'est parce que nous devons répondre d'abord et avant tout à nous-mêmes. La réponse à nous-mêmes est la réponse la plus difficile qui soit. Et là, nous sommes pas véritablement encore arrivés à ce point de jonction où nous voulons affirmer pleinement et consciemment ce que nous sommes, c'est-à-dire exprimer véritablement cette identité d'Hébreu.
Alors, vous pensez qu'on devrait peut-être reformuler un nouveau rêve pour le peuple juif ?
Ben, le premier, celui le plus important chez les Hébreux, c'est d'être capable de se retrouver, de se réunir, de se rassembler, de s'assembler, malgré les couleurs différentes, malgré les tons différents.
Tout le travail est d'abord chez nous.
Mais bien entendu, encore une fois, Emmanuel, je vous répète, il est impossible, et je dis ça à mes étudiantes, il est impossible pour vous d'offrir quoi que ce soit à autrui que vous ne possédez pas. En venant vous voir, quand je suis descendu du bus, quelqu'un tend la main. Il a bien fallu que je trouve une pièce dans ma poche pour la lui offrir. Si jamais cette pièce n'avait pas existé, que nenni, mon ami, il aurait été absolument impossible de lui offrir. Donc il est bien évident qu'il faut déjà posséder en son propre sein, véritablement, pour pouvoir donner, offrir et octroyer à autrui.
Alors quel est le travail qu'on doit faire aujourd'hui, Ronnie ? Quel est le message que vous aimeriez faire passer pour le Pessah de cette année ? Quel travail le peuple juif doit faire aujourd'hui sur sa terre ?
Apprendre à aimer.
C'est joli, ça me plaît, ça.
Apprendre à aimer. Parce que vous savez quoi ? Les Hébreux, ils aiment à jouer aux chiffres et aux lettres. Bien
c'est
avant
vrai.
Armand Jameau et Franck Bleu. Et aimer en hébreu se dit Ahava. Et vous savez que le mot Ahava a une valeur de 13.
C'est l'unité.
Mais lorsque j'ai voulu aimer, lorsque le jeu que je suis a voulu aimer, j'ai rencontré ce tu qui m'accompagne depuis des années. Et ensemble, nous avons essayé d'aspirer à conjuguer les verbes de notre histoire ou de les décliner à tous les temps, mais surtout à la première personne du pluriel. C'est-à-dire où ce jeu et ce tu sont devenus nous. Et ce nous est significatif de ce que vous avez dit, c'est-à-dire de l'unité. Mais un, en hébreu, c'est Echad. Et Echad vaut 13 aussi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a amour avec aspiration de cette unité, de cette conjugaison à la première personne du pluriel, c'est 2 fois 13, c'est 26. Donc nous savons, bien entendu, que l'éternel, la Shrina, c'est-à-dire l'esprit divin, repose à l'intériorité même de ce nous-là, de ce couple, de cet amour-là. Alors je dis, Ava, 13. 1, 13. Et l'éternel, 26, ça nous fait 52. Alors tout le monde sursaute, tout le monde sursaute en disant 52, c'est Ben. J'ai dit oui, mais ce n'est pas que l'enfant ou le divin enfant tant espéré. Ben, en hébreu, c'est aussi la racine du verbe livnot, construire.
Even, la pierre.
C'est parce que nous, non, pas even, et c'est pas la racine. Ben, c'est la racine de livnot, de construire. Là où il y a amour, là où il y a unité, là où il y a présence divine, il y a la possibilité de construire, d'être et de devenir. C'est la raison pour laquelle s'il y a un message pour Pessah, c'est ce message bien entendu d'aspirer à la liberté, mais pour être libre, il faut suffisamment avoir d'amour propre. Les résistants avaient un amour propre, ils ne supportaient plus d'être les objets de leur histoire. Et par amour d'eux-mêmes, oui mais ça commence par l'amour propre. Il faut être libre en soi pour offrir la liberté. Et être libre en soi, c'est découvrir cet amour propre, cet amour de soi. Et c'est pour cette raison-là que je suis prêt à me battre. Les collabos, ceux qui étaient les hommes du silence, n'avaient plus cet amour-là. Et ils ont disparu dans les méandres de l'histoire.
On va faire une petite page musicale pour intégrer tous ces propos.
Seinu velonu Shelo echot bilvot Umadot leinu lecha Seinu Umadot leinu lecha Seinu Vehi she'amda Lavotenu Vehi she'amda Lavotenu velanu שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו עבוד אלבור ומצילנו ומצילנו ימין
כולם צריכים להכיר את זה. לה 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 לה
Vous êtes toujours sur Rose Radio, nous sommes dans le 9-13 avec notre invité du jour, Ronny Akrich. Si vous prenez l'émission en cours, nous parlons de Pessard et de son message universel, son message intrinsèque et son message d'avenir aussi. Alors Ronny, il y a une chose très importante qu'il faudrait dire à nos auditeurs et redire, c'est que Pessard, ce n'est pas seulement nettoyer sa maison, rechercher le Hametz et préparer un repas. C'est vrai que c'est une très jolie tradition, c'est une très jolie fête qui réunit toute la famille. Mais la force de Pessard est ailleurs.
Oui, nos sages le signalent dans nombre de leurs écrits, le Maharal de Prague en particulier. Je crois qu'il y a un côté obsessionnel ou fixatif sur ces éléments-là, qui sont des éléments de technique, si je peux appeler cela ainsi. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier l'essentialité du message de Pessard. Sachez simplement que nous appelons la fête de Pessard, Pessard, nous les hommes. Dans le texte, il n'y a pas de fête de Pessard. Il y a fête des Matzot. La fête de Pessard, ou le jour de Pessard, c'est le 14 du mois de Nissan. Mais à partir du 15 jusqu'au 21, ça s'appelle la fête des Matzot. Et Matzot, c'est significatif, c'est le pain du pauvre. Et le pauvre, dans le traité de Shabbat, est celui qui est à l'extérieur de la maison, quand le propriétaire est à l'intérieur de la maison. Le pauvre est celui qui est sans maison, celui qui a besoin du propriétaire, celui qui est encore et toujours l'objet. À Pessard, nous disons, oui, nous étions sur une terre étrangère, objet de notre histoire, mais l'an prochain, sur la terre d'Eretz Israël, libre, libre, ça veut dire sujet de son histoire. Je vais vous donner un exemple. On a parlé tout à l'heure de cette jeune fille, Myriam, avec son père, Amram et Yochevet. Regardez comment elle prend en main l'histoire. Mais il y a un autre passage très important. Il nous faut parler aux enfants. D'ailleurs, cette Agada, c'est le dire.
La Pessar, la bouche qui parle,
oui,
la bouche qui raconte.
Oui, oui, mais encore une fois, Pessar, c'est le corban de Pessar, c'est-à-dire de ce moment particulier où l'acte de résistance a venu faire valoir que nous voulions, par l'acte de prélèvement de cet agneau idolâtré par les Égyptiens, nous voulions être envers et contre tous les aléas de notre histoire tellement tragique et dramatique en Égypte, les nouveaux sujets. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Cela continue. Lorsque nous sortons d'Égypte, et vous vous rappelez que seulement un cinquième est sorti, et ça c'est les optimistes, comme Rachid. Il y a des pessimistes qui pensent que c'est 1/50, 1/500. Alors me direz-vous, mais alors que sont-ils devenus les autres? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la plaie d'obscurité, Rachid nous dit, Rechaim, c'est le Ratsu Atzet, les Rechaim qui n'ont pas voulu sortir. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens mauvais, ce sont des gens incapables de faire la part des choses entre l'obscurité de l'histoire et le jour de l'histoire, entre le bien et le mal. C'est cette incapacité à comprendre les éléments vectoriels de cette dichotomie de l'histoire qui va les embourber et les ensevelir dans leur propre histoire. Alors, il y a dans ce moment de fête des Matzot, un moment où il faut prendre une décision. Seulement 1/5 prendra la décision de l'agneau, de peindre les linteaux des portes et de faire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la hèche. Et au moment de sortir, Hamushim Yatsub Nisraim Miret Misraim, 1/5 est sorti, comme dit Rashi. Alors donc ce 1/5, c'est en quelque sorte, comme nous disons en hébreu, à Douf Devan Jebakatsefet, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau. Alors on pense que tout va bien. Et puis tout d'un coup, dans le texte de Shemot, nous entendons qu'il se plaît. comment Moshe nous as-tu sorti dans ce désert là pour y mourir? N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour y mourir? Vous rappelez que cette cerise sur le gâteau sera capable de dire et de faire valoir qu'elle se souvient de la viande qu'on mangeait en Égypte et puis surtout du poisson qu'on mangeait gratuit. Là-dessus, Rachid d'ailleurs n'a pas pu rester impassible. Il a dû sursauter sur sa chaise de pierre puisqu'il écrit ainsi. Comment osez-vous, malandrin que vous êtes, comment osez-vous dire que vous mangiez du poisson gratuit alors que la paille pour les briques qui devait servir à la construction des sphinx et des pyramides, cette paille vous deviez la payer. Quelle outrecuidance, quelle effronterie de vouloir déclarer de cette manière.
La mémoire courte, hein. L'homme a la mémoire courte.
Mais c'est pas nouveau, je vous l'accorde, ma chère amie. En tout état de cause, ceux qui sont sortis, c'est un cinquième. Puis rappelez-vous, ce passage tellement merveilleux sera le septième jour de Pessah. Mais nous allons le raconter aussi le soir du Seder. Car je vous ai dit, Agada, c'est Léagid. Léagid, c'est raconter. Dire avec... avec force, c'est les Daber. Les morts, c'est dire avec clémence. D'ailleurs, les morts, c'est la mère. Les Daber, c'est le père. L'un est le droit à la justice, l'autre, c'est l'amour et la chaleur d'être. Et pour que passe le courant, il faut les deux, bien entendu. Il y a les guides. Nous devons raconter. C'est vrai que c'est important, les 3 cinquièmes, les 4 huitièmes et les 7 quarts. Mais ce n'est pas l'essentialité. L'essentialité, c'est Veigata les Bincha. Tu raconteras à ton enfant. Pourquoi? Pour que cet enfant devienne libre. Je veux vivre. Pour dire à l'histoire, je te survivrai. Elle était belle la chanson. Je te survivrai. Envers et contre tout les vicissitudes, les aléas.
Non, c'est cette graine qu'on a plantée dans le peuple qui a permis peut-être au peuple juif de supporter tout ce qu'il a supporté.
Absolument, et quand Friedrich Nietzsche demande d'en part de là le bien et le mal, comment se fait-il qu'un peuple aussi poursuivi, aussi violé, aussi violenté, aussi assassiné, aussi éperdu est encore et toujours là? C'est parce que Jean-Baptiste Vico, avant Friedrich Nietzsche, avait déjà répondu à cela, puisqu'il est le père de l'historiosophie. Il fait un classement des peuples en disant « Je n'ai plus classé Israël, il est inclassable. » Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il n'appartient pas à l'histoire, il est le peuple. Vous écoutez Manuel? De la méta-histoire. Vous n'êtes pas lié à la même normativité de l'histoire que les autres peuples. Alors oui, les empires ont grandi, se sont élevés avant de s'effondrer. Mais Israël ne s'est jamais élevé, il s'est maintenu dans une constance d'être et de devenir. Et nous sommes toujours présents. Comme disait Kessel, si jamais David revenait là maintenant, pendant que nous parlions, et qu'il entendait dans la rue parler l'hébreu, il s'y reconnaîtrait tout à fait. Rien ne lui paraîtrait véritablement étrange. Alors nous devons raconter, pour former l'esprit de nos enfants à ce que veut dire être l'être souverain. Car souverain, il faut que je sois pour être porteur de ce projet divin, éthique et moral, pour le peuple d'Israël, pour l'humanité.
Alors concrètement, ça veut dire quoi être souverain ?
Alors regardez, lorsque nous sommes sortis de cette Égypte, 1 sur 5, nous sommes arrivés devant la mer et les Égyptiens nous ont poursuivis. Nous nous sommes retrouvés dans quelle situation, Emmanuel ? Un véritable dilemme cornélien.
La mer ou les Égyptiens ? La mort ou la mort ?
La mort noyée ou la mort par l'épée ? Un véritable dilemme. Alors que fait le peuple ? Le peuple se plaint de ses complaintes habituelles. D'ailleurs, il se complaît à cette complainte-là. Et il se tourne vers Moshe. Que fait Moshe ? Ce qu'il sait faire aussi. Moshe, dans ce cas-là, interpelle l'Éternel. Et la réponse de l'Éternel est significative. Et lundi soir, j'enseignerai à mes enfants, mais ils sont déjà grands, à mes petits-enfants maintenant, et je leur dirai, la réponse de l'Éternel est significative. Qu'est-ce qu'il dit ? Trois choses, dans la même phrase. Matitzakelai, Daber el ben Israël, Vaïsaou. Matitzakelai, que viens-tu m'implorer ? Ne sais-tu pas, Moshe, toi, berger d'un peuple, qu'il y a un moment où il faut savoir ouvrir les livres de complaintes, mais qu'il y a un moment où il faut savoir fermer les livres de plaintes pour pouvoir agir et réagir. Az, alors, Daber el bnei Israël. Il ne lui dit pas « Et mort les bnei Israël ». Ce n'est pas ce langage féminin de tendresse. Tu voudras bien leur dire que... Non, Daber, dis-leur, autorité, dis-leur aux enfants d'Israël, Vaïsaou, et qu'ils se mettent en marche. Et celui qui entend le message, c'est le prince de la tribu de Yehuda. C'est Narshon ben Aminadav. Il rentre dans l'eau jusqu'à la bouche à tel point qu'il ne peut plus faire la différence entre le Khaf et le Kaf. Et à ce moment-là, la mer s'entrouvre et les écrits, les évangiles diront « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est de là qu'ils ont appris. Mais plus que la mer s'est ouverte, Manitou enseignait que ce n'est pas tellement intéressant que le liquide soit devenu solide. qui est intéressant, c'est de savoir que dans cette traversée de la mer des Joncs, et pas la mer Rouge, encore une ineptie populaire, et c'est la mer des Joncs, Yam Souf. La mer des Joncs, ce n'est pas ce liquide transformé en solide, mais c'est qu'au milieu de cette mer, il y avait une porte, une sorte de porte. Parce que cette traversée, c'est faire valoir cette ivrie. Vous le savez comme moi, ivri, c'est celui qui traverse pour être de l'autre côté, afin de faire valoir, non pas, comme disait mon maître le Rav Tzvouda Cohen Cook, que nous voulons être séparés des nations, mais nous voulons être différents. C'est-à-dire, si vous voulez m'aimer, c'est pour ce que je suis, non pas pour ce que vous espérez que je devienne. Traverser cette porte, c'est vouloir faire valoir cette différentialité-là, et dans cette différence, eh bien faire valoir que oui, nous étions les objets de l'histoire égyptienne, mais que maintenant que nous traversons cette mer des Joncs, eh bien, nous devenons les sujets de notre histoire.
Et ça passe par l'eau, tout ça.
Ben, il faut être capable de se mouiller dans l'histoire.
Je vous ai tendu la perche, là. Non, le symbole de l'eau est très fort. Hein.
Bien sûr. Mais c'est se mouiller, c'est ce que dit l'Éternel. Matitzakela et Daber Ebn Israël Vaïsao. Il savait très bien qu'il devait rentrer dans l'eau. Est-ce que la mer était ouverte avant qu'il ne rentre? Point, point du tout.
C'est encore une épreuve d'Emouna?
Ben oui, Emunat Rabba Lelot. C'est quand il fait nuit que nous devons faire preuve de grandeur. Quand il
Alors,
fait
aujourd'hui,
jour,
sommes-nous devant la mer?
Ben, nous sommes tous les jours, individuellement et collectivement, nous sommes portés vers cette mer-là. Mais c'est surtout ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point ceux qui sont la cerise sur le gâteau auront tellement de difficultés, malgré qu'ils sortent des méandres de cet exil, malgré qu'ils aient pris l'agneau, qu'ils l'aient égorgé, qu'ils ont fait à la hêche, qu'ils ont réussi à sortir. C'est encore
c'est
difficile.
Fini,
rappelez-vous
quoi.
Que, en fin de compte, tous ceux qui sont sortis, à part Yoshua Binoun et Caleb Ben Yefouné, nul ne rentrera en terre d'Eretz Israël. Tous ceux qui rentreront sur la terre d'Eretz Israël, ce sont des gens qui sont nés dans le désert. Avraham Ibn Ezra, le commentateur célèbre à la fin du Moyen-Âge, écrira que seuls ceux qui sont nés dans le désert, n'ayant point connu les concentrations difficiles du vécu égyptien, alors ceux-là seront à même de pouvoir pénétrer l'intériorité d'Eretz Israël pour mieux y enfanter la liberté d'être et de
Donc
devenir.
Il fallait effacer toute cette mémoire de l'esclavage et de la servitude pour
Je
pouvoir
vous donne
être
un
homme libre
Absolument,
sur la terre d'Israël.
C'est bien, vous le dites avec vos mots. Mais le Talmud, dans la Gemara de Ktuvot, du Talmud de Babylone, vient nous raconter que Rabbi Zera avait quitté son maître Rabbi Yehuda pour monter en Eretz Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il jeûne pendant 100 jours. Vous savez pourquoi, Emmanuel? Il voulait oublier tout le Talmud qu'il avait étudié à Babylone. Car revenir sur la terre d'Eretz Israël, c'était vouloir faire valoir « En Torah que Torah Eretz Israël ». On ne peut pas comparer la sagesse, l'enseignement, le savoir, la connaissance, lorsque celle-ci est intimement liée au terroir de son essence, alors que le fait de s'abreuver à des puits qui possèdent des eaux qui ne sont pas les nôtres, ces eaux ne sont peut-être pas à même d'assouvir la soif qui est la nôtre.
C'est pas seulement boire de l'eau de puits qui ne sont pas les nôtres, mais c'est également le lieu, vivre, marcher sur une terre qui n'est pas la nôtre.
Mais bien entendu, prenez Monsieur Pingouin, mettez-le en Afrique australe, et prenez l'orange, mettez-le en Antarctique, et demandez à Monsieur Pingouin, cher Monsieur Pingouin, pouvez-vous être et devenir? Il vous répondra, je ne pense point. Pourquoi, Monsieur Pingouin? Il fait excessivement chaud et je ne suis pas bâti pour cette mesure-là. Alors Monsieur Pingouin sait pertinemment, comme Madame Orange d'ailleurs, qu'ils n'ont la possibilité de donner le meilleur de leur être animal ou de leur être de fruit que dans le terroir qui leur est approprié. C'est clair. De sages nous disent dans le Midrash, j'ai choisi un peuple. Qui bachar Hashem Betzion, Dieu a choisi cette terre. Il va les Moshavlo, il est nostalgique de ce terroir. Qui bachar Hashem Betzion, il va les Moshavlo. Qui Yaakov bachar Loya Israël Isgulato. Il a choisi ce peuple. Il a choisi un peuple et une terre. Mais le peuple est masculin, la terre est féminine.
C'est une rencontre.
Et vous voulez me dire que nous sommes incapables de comprendre qu'entre la rencontre du peuple masculin et de la terre féminine, ce que cela veut dire?
Une naissance, un accouchement.
Ce que disait Manitou, les engendrements. Vous voulez un autre terme? Les fruits de la passion.
très très beau. Alors le message du Pessah de cette année, si je dois retenir deux choses, c'est que 1, le peuple est sorti d'Égypte et la majorité du peuple juif aujourd'hui se retrouve sur sa terre. 2, c'est la fête le plus majoritairement suivie en Israël et dans tout le peuple juif, ça a un sens. Religieux et non religieux, ça a un sens. Ça veut dire que quelque part, cette petite graine qui a été plantée à l'intérieur de la neshama du juif, eh ben, elle est en train de pousser. C'est-à-dire que le juif, intrinsèquement, sent cette liberté, ce devoir d'aller, comme vous disiez tout à l'heure, d'avancer, d'être dans cette dynamique vers la liberté, elle est encore là, elle persiste à l'intérieur du
bien
peuple.
Bien sûr, nous
Donc
sommes.
C'est très positif.
Nous sommes pleinement conscients de cette nécessité de liberté, de souveraineté, bien entendu, pas de liberté libertine, ni libertaire. Je parle de liberté dans le sens où la liberté est la possibilité donnée à l'être de faire valoir l'ensemble ou l'essentialité de l'être qu'il est. Comme disait Rabbi Zouchar.
C'est-à-dire la liberté de la responsabilité.
Oui, la liberté de la responsabilité, c'est-à-dire de remplir et d'affirmer envers et contre tout ce pourquoi je suis là. Vous savez, il y avait une petite histoire que j'ai l'habitude de raconter. Rabbi Zouchar, sur son lit de mort, se lamente. Et les élèves lui demandent: pourquoi te lamentes-tu? Il dit: parce que je vais aller devant le tribunal céleste. Oui, ne crains rien, Rabbi, toi. Et il dit: mais si, on va me poser une question. Mais quelle question on va te poser? Et il avait une question sur laquelle il était absolument inquiet. Zoucha, c'était son prénom. Est-ce que tu as été Zoucha? C'est cela notre question. Est-ce que nous avons été capables de révéler l'essentialité de l'être que nous sommes? C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, le nom est l'essence de l'être. Mais pas seulement le nom de l'individu, comme le nom du peuple d'Israël. Et rappelez-vous, un des enseignements de Manitou, Israël, c'est polysémique. C'est Yachar El ou Issar El. Il est soit droit vers l'éternel, sur le chemin de l'histoire, soit il est Issar El, soit rebelle à cette histoire. Il dit, Manitou, mais il y a quelqu'un qui a été mis au sein de cette histoire pour être à l'oreille, à l'écoute du projet de l'histoire. Et celui-là s'appelle Ishmaël. Et ne croyez pas
que les Arabes
sont nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis, ce sont nos cousins germains. Notre seul problème à nous, c'est d'essayer de toujours trouver un responsable. À chaque fois que vous pointez le doigt vers un accusé, il y a un doigt vers lui, mais quatre vers vous. Mais c'est beaucoup plus facile de pointer le doigt vers l'accusé plutôt que de se responsabiliser. Alors nos cousins germains, je ne leur en veux pas, je ne critique qui que ce soit. La seule personne que je critique, c'est moi. Est-ce que je suis capable, oui ou non, de remettre en question ce pourquoi je suis ici, de faire valoir cette essence qui vibre en moi, de répondre à la résolution du projet auquel j'appartiens, qui est de faire valoir l'être hébreu, celui capable de faire valoir cette différentialité-là dans sa langue, dans son histoire, dans sa culture et sur sa terre, et de, à travers cela, d'être une lumière pour l'ensemble de l'humanité. Et s'ils sont tellement vindicatifs vis-à-vis de nous, c'est parce qu'ils sont intimement persuadés, comme l'écrivait un de mes amis décédé il y a longtemps, le professeur Avraham Livni, le retour d'Israël Emmanuel, c'est l'espérance du monde.
C'est-à-dire que le monde attend qu'Israël devienne Israël?
Absolument.
J'ai bien résumé votre pensée, là.
Mais bien entendu qu'il faudra énormément d'efforts en notre propre sein de peuple qui est tellement différent. Mais j'accepte la mosaïque. Comprenez que dès l'origine, nous ne sommes pas nés d'un patriarche. On aurait pu naître d'Abraham ou d'Itsaac. Nous sommes nés de Yaakov, mais nous sommes surtout nés des 12 enfants de Yaakov. C'est à travers ces 12 tribus-là que nous voulons faire valoir la beauté de l'être hébreu qui, dans sa composition d'image divine, qui doit se refléter sur le visage de l'humanité d'Israël, il y a les couleurs de la palette qu'a voulu l'Éternel. Et c'est dans la reconnaissance de l'ensemble de ces couleurs que la lumière scintillera du plus beau de son intérieur.
Dans la reconnaissance et dans l'unification de...
Mais vadaï, nous sommes différents, bien entendu. Un homme ne sera pas une femme ne sera pas un homme, Yehuda ne sera pas Asher et Asher ne sera pas Zevulon. Mais soyons capables de trouver quels sont les PPDC de l'histoire des Hébreux, les plus petits dénominateurs communs. Car nous avons un plus petit dénominateur commun. C'est simplement un regard subjectif, superficiel, esthétique, qui nous empêche de voir et de découvrir l'intériorité éthique et morale qui nous lie les uns aux autres. Et donc cette nécessité d'amour. Et je crois que nous sommes continuellement bousculés par l'histoire pour essayer d'apporter les réponses qui doivent être les nôtres, avant tout les nôtres.
C'était passionnant, je vous remercie beaucoup Ronia Krish. On peut retrouver l'intégralité de vos conférences, de vos écrits, en tout cas une partie de vos conférences sur votre site internet, un nouveau site. Je l'annonce pour les auditeurs. Vous composez www.roniakrish en un seul mot, roniakrish.com. On peut également trouver la liste de vos conférences en Israël et à l'étranger, peut-être aussi.
Pour l'instant qu'en Israël, mais peut-être si ma santé me le permet aussi à l'étranger. Mais pour l'instant, je suis au combien.
Je pense que vous allez être invité très bientôt à l'étranger.
Je suis l'enfant de Yaakov et Achai Anochi Mevakeh. Je suis à la recherche de mes frères et pour l'instant, mes frères les plus proches sont ici.
Bien alors, qu'ils soient aussi. Beaucoup de villes ont le plaisir de vous accueillir, hein, pas seulement Jérusalem, mais
oui, Batia, Ashdod, Ashkelon, Tel Aviv, Yerushalayim, Beersheva. Et nous avons commencé peu à peu aussi dans les universités à porter justement ce message de la trilogie du peuple de la terre et de la Torah d'Eretz Israël.
Comment c'est reçu parmi les jeunes?
Parmi les jeunes, c'est bien reçu de manière générale, car vous sentez que j'y mets tout mon cœur, bien qu'ils soient malades et fatigués. Et nos sages nous ont dit que ceux qui sortaient du cœur ne pouvaient rentrer que dans les cœurs. Donc étant donné que mon message, depuis l'âge de 14 ans, même s'il n'était pas hébreu à l'époque, a toujours été celui d'un homme qui croyait profondément, d'une confiance énorme, un amoureux de son histoire, de l'histoire, et un passionné de l'être en général, et de l'être hébreu en particulier.
Merci Rony, on va méditer sur toutes ces paroles profondes sur l'histoire du peuple juif et sur le message et le devenir du peuple juif. C'est important, juste avant Pessah et peut-être même pendant le Seder de Pessah, d'y réfléchir tous ensemble, en famille et dans tout le peuple, dans son entier. On aura le plaisir de vous recevoir une prochaine fois pour parler de continuer à parler de l'histoire du peuple juif, peut-être la prochaine fête.
Bézrat Hashem, en tout cas, Chag Sameach.
Chag Sameach à vous, et vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de l'interview de Ronia Krish ce matin sur notre site internet en tapant www.ozradio.fr et en cliquant sur l'émission du 9-13. Merci beaucoup Rony, bonne fête à vous et à toute votre famille et à Hebron, à cette merveilleuse ville de Hebron dans laquelle vous habitez. À tous les habitants, on leur souhaite une fête de la liberté.